Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, à Beni, la rentrée scolaire se prépare sous la menace d'Ebola. Des dispositifs de prévention existent déjà dans certaines écoles, mais le manque d'équipement reste un défi pour de nombreux établissements. Les opérateurs économiques du Grand Bandundu saluent la suppression des barrières illégales sur la route nationale numéro 1. Ils estiment que cette mesure allégera les coûts de transport et facilitera la circulation des marchandises. Son président, Fifa Mikabar, remercie le gouvernement central tout en déplorant l'inaction des autorités provinciales face aux nombreuses plaintes des usagers de ces taxes routières. Après la tenue à Lubumbashi de la 5e édition du CIARU, quels défis et quelles perspectives pour la médecine d'urgence en RDC? Le docteur Foreman Mabala, coordonnateur général de cette organisation scientifique, est l'invité de ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition du journal parlé de la mi-journée. À quelques jours de la rentrée scolaire, les écoles de Beni au Nord Kivu se préparent à accueillir les élèves dans un contexte marqué par la présence d'Ebola. Dans certains établissements, des mesures de prévention sont déjà en place, mais le matériel reste insuffisant dans plusieurs écoles. Reportage de Chantal Kahashi.
À l'entrée de cette école, le dispositif de lavage des mains est déjà installé. Une mesure qui fait partie des précautions prises avant la rentrée.
Nous avons déjà des kits comme lave-main. L'élève se lave d'abord. Nous allons chaque fois vérifier la température de nos élèves juste à l'entrée avant d'entrer dans la salle de classe.
Mais toutes les écoles ne disposent pas des équipements nécessaires.
Nous avons par exemple ici chez nous, Epiabeni, 5 lave-mains sur les 14 classes. Vraiment, il y a risque de contaminer nos enfants et nous-mêmes d'ailleurs.
Une situation qui préoccupe également certains parents à l'approche de la rentrée.
Je suis inquiet si l'école n'a pas pris des mesures barrières, mais aussi il y a des classes de plus de 30 élèves. Ceci peut favoriser effectivement la propagation de la maladie.
Robert Kambalé, chef de la sous-division de l'éducation de Beni, appelle à l'aide.
Nous lançons l'appel aux ONG de nous venir aussi en aide pour épargner les enfants de cette maladie d'Ebola.
À Beni, la prévention contre Ebola reste une préoccupation avant la rentrée scolaire. Beni, Chantal Kahashi, Radio Okapi.
Je le disais tout à l'heure en titre, les opérateurs économiques de l'espace Grand Bandundu se réjouissent de la suppression des barrières illégales qui jalonnaient la route nationale numéro 1. La Fédération des entreprises du Congo, la FEC, salue une mesure qu'elle considère comme un soulagement pour les acteurs économiques de la région. Son président Fifa Mikabar remercie le gouvernement central pour cette décision. Il regrette cependant ce qu'il qualifie d'inaction des autorités provinciales du Kwilu, du Kwango et du Maïndombe face aux nombreuses plaintes formulées par les opérateurs économiques concernant les tracasseries sur cet axe routier. Selon lui, la suppression de ces barrières devrait fluidifier le transport des marchandises, réduire certains coûts liés au déplacement et contribuer à la baisse des charges supportées par les commerçants. On écoute les explications de Fifa Mikabar.
La FEC Grand Bandundu nous remercie vivement le gouvernement central d'avoir démantelé les barrières illégales sur la nationale numéro 1 et exprime en même temps son regret sur l'indifférence des autorités provinciales à ce sujet. Malgré nos multiples dénonciations, les autorités provinciales, en tout cas, faisaient sourde oreille. C'est pour cela, comme le gouvernement central a agi, dont nous remercions vraiment vivement le gouvernement central. Alors, nous demandons aussi à la PCR de rembourser au trésor public tous les fonds qu'elle percevait sans note de perception dans des barrières. Donc, vous imaginez, si la moto passait, on demandait 1000 francs à la moto, on demandait 40 000 francs pour le gros véhicule. Alors, tout cet argent, nous ne savons pas s'aller où. Parce qu'il n'y avait même pas les agents de la DGRAD qui établissaient des notes de perception. Nous demandons que la PCR puisse rembourser tout cet argent-là au trésor public pour que notre gouvernement puisse l'utiliser pour la sécurité de notre pays.
Toujours au Grand Bandundu, l'Union des consommateurs du Congo dans la province du Kwilu tire la sonnette d'alarme sur le non-fonctionnement de l'abattoir de la ville de Bandundu. Cette structure citoyenne s'inquiète des risques sanitaires auxquels la population est exposée, faute d'un contrôle vétérinaire régulier des animaux abattus et de la viande destinée à la consommation. Reportage Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Selon l'Union des consommateurs, en l'absence d'un abattoir opérationnel, des particuliers procèdent librement à l'abattage et à la commercialisation des animaux, sans que la viande ne soit systématiquement soumise à une inspection sanitaire par le service compétent. Pour Maître Didier Aboukani, président provincial de l'Union des consommateurs du Kwilu, cette situation constitue une menace pour la santé publique. Il revient sur les risques encourus par la population.
Chacun est libre d'abattre sa bête et vendre sans que cette viande soit contrôlée par les services attitrés, dont les services vétérinaires, qui a presque disparu avec le temps. Les abatteurs, à leur tour, ont fabriqué leurs abattoirs devant les maisons où les consommateurs viennent s'approvisionner sans que les services vétérinaires interviennent, avec le risque maximum de contamination des maladies liées à ces animaux incontrôlés.
Cette organisation estime qu'un contrôle sanitaire efficace permettrait de limiter la consommation de viande provenant d'animaux malades et de prévenir certaines maladies transmissibles à l'homme. À Bandundu, elle déplore également la faible présence des services vétérinaires sur le terrain et plaide pour un renforcement de leur contrôle afin de mieux protéger la santé des consommateurs.
Et puis, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics inspecte depuis dimanche 23 août les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1 sur les tronçons compris entre Mwanda et Kinshasa. John Banza a visité les chantiers du port en eau profonde de Banana, de la lutte contre l'érosion côtière ainsi que ceux de l'axe routier Mwanda-Yema. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au Congo central, la caravane des infrastructures a débuté son périple où le gouvernement congolais poursuit les travaux de lutte contre l'érosion côtière de l'océan Atlantique. Sur place, le ministre John Banza Lunda a reçu un topo complet sur les projets dans cette partie du pays, comme l'a expliqué le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nico Nzaou Nzaou.
Le ministre avec s'est repris la route pour faire Mwanda jusqu'à Kinshasa. Il n'y aura plus de secret pour la RN1 parce que toute la population est en train de vivre cette caravane.
Financée par les concessionnaires Société des péages du Congo, cette lutte contre l'érosion côtière a permis la construction de 1400 mètres de murs de protection, l'installation de pales planchers métalliques et un enrochement conséquent pour briser la violence des eaux. Le ministre a ensuite été conduit au chantier du port en eau profonde de Banana, capable d'accueillir simultanément 4 bateaux moyens ou des gros navires, sera opérationnel d'ici quelques mois. Troisième projet visité ces jours, la route concédée Mwanda-Yema. Longue de 23 km, elle a été ouverte jusqu'à la frontière angolaise par les concessionnaires vaste réseau de services au Congo qui procédera au revêtement et à la construction des ouvrages d'assainissement.
Dans le même registre, la ville de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru, s'apprête à franchir une étape importante dans la modernisation de ses infrastructures. 50 km de route seront prochainement asphaltées dans le cadre d'un projet lancé par le gouvernement provincial. Un contrat a été signé vendredi dernier avec l'entreprise Safrimex pour l'exécution de ces travaux qui comprennent également la réhabilitation de l'aéroport de Lusambo. Pour de nombreux habitants, cette initiative pourrait améliorer la mobilité des personnes et des biens tout en contribuant au désenclavement de la province. Accueilli avec enthousiasme par la population, ce projet suscite de grands espoirs quant au développement économique et social du Sankuru. Reportage d'Esther Ndarafina, rendu par Alain Irungu-Mushinji.
La signature du contrat entre le gouvernement provincial du Sankuru et l'entreprise Safrimex s'est déroulée en présence des élus provinciaux et nationaux ainsi que de nombreux ressortissants venus assister à cet événement jugé historique. Dans une première phase, Safrimex va moderniser 50 km de voirie urbaine à Lusambo. Ces routes recevront l'asphalte pour la toute première fois. Les habitants évoquent déjà les avenues Mobutu, Lubefu ou encore Kolé qui mènent vers le bac de traversée comme des priorités attendues depuis des années. Safrimex n'en est pas à son premier chantier. Mbujima et l'entreprise a déjà modernisé plusieurs axes urbains en commençant par les ouvrages d'assainissement, les collecteurs d'eau, la réhabilitation des chaussées, le marquage au sol et l'éclairage public. Après Lusambo, une deuxième phase est prévue, la construction et la modernisation de l'aéroport de Lusambo, ainsi que la réhabilitation des routes reliant Lubefu à Tchoumbe, Katakokombe et Lodja. Pour les habitants du Sankourou, ce projet arrive à point nommé. La province riche en production de riz, huile de palme, arachide notamment, mais aussi en gisements de diamants et d'or, voit dans ses infrastructures modernes un véritable levier de décollage économique.
Au sud Kivu, les communautés locales de l'île d'Idjoui demandent à être pleinement associées à toutes les étapes du projet d'exploitation du gaz méthane sur les lacs Kivu. Réunis à Bougaroula lors d'un atelier d'information organisé par l'ONG Appui aux initiatives communautaires pour l'environnement durable et AICED, elles ont élaboré un cahier des charges transmis samedi au ministère congolais des hydrocarbures. Ces documents répondent entre autres leurs attentes concernant le projet gazier. Les détails avec Bernadette Nyangi.
L'atelier s'inscrivait dans le cadre d'une série d'activités menées par l'ONG AICED. L'objectif est de renforcer les capacités des communautés riveraines des blocs gaziers du lac Kivu sur les procédures légales et les mécanismes de participation citoyenne à respecter avant toute exploitation du gaz méthane. La session organisée de vendredi à samedi à Bougaroula a permis aux habitants concernés de faire entendre leur voix à ce sujet, indique Faustin Yeboné, secrétaire exécutif de l'AICED.
On a aussi renforcé les capacités de la communauté sur l'importance de présenter un cahier des charges à une entreprise éventuelle qui peut venir exploiter les gaz méthane.
L'initiative a été bien accueillie par la population locale qui affirme désormais mieux comprendre les enjeux liés à l'exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu. Suivons ce témoignage.
Je suis désormais mieux informé sur les enjeux de cette ressource. Ce que nous demandons aux futures entreprises, c'est d'intégrer les communautés locales et de les consulter à chaque étape du projet.
Rappelons que 4 blocs gaziers ont été délimités sur le lac Kivu par l'État congolais depuis 2022. L'entreprise américaine Symbion Power, attributaire du bloc Idjoui, avait annoncé en juillet 2025 son intention de lancer prochainement les activités d'exploration dans cette zone.
Restons dans la province, la société civile environnementale de Kalehe dénonce la poursuite de la pêche illicite des alevins dans le lac Kivu. Selon son président Madadjou Devote, cette pratique met en péril la sécurité alimentaire des habitants. Il cite notamment les cas des villages Chibanda près d'Ichovu où certains pêcheurs capturent jusqu'à 7 bassins d'alevins. Il interpelle ces derniers sur les conséquences néfastes de cette activité qualifiée de dangereuse pour la faune aquatique. Madjadjou Devote s'est exprimé au micro de Ronéline Tibonera.
On est en train d'assister à un scandale. On peut citer dans le sous-village de Chibanda, Michebere, Luzira Chofi, où on voit des inciviques qui sont en train d'utiliser des filets poibeux pour la capture des alevins de fretin, avec comme conséquence la sécurité alimentaire. En cette période où la population est en train de connaître un boom démographique, voilà, d'ici quelques années, nous serons dans une situation telle que nous n'aurons plus de ressources nécessaires pour nourrir les populations qui auront galopé de manière exponentielle. Alors imaginez, un seul pêcheur, nous avons assisté à la scène, nous avons vu un moment, un seul qui parvient à capturer ce bassin pour son intérêt égoïste. Et imaginez un bassin, juste un verre d'ailleurs, qu'est-ce que ça représente?
Pour rappel, dans les zones riveraines du lac Kivu, les experts environnementalistes alertent régulièrement les communautés sur les effets de cette pêche illicite. Les sambaza, petits poissons prisés des habitants de Goma et Bukavu, peinent à se reproduire du côté congolais en grand nombre. En cause, la destruction des zones de frais par les activités de pêche incontrôlées. À Punia, dans le territoire du même nom, au Maniema, plus de 600 filles et femmes en âge de procréer ont reçu des kits d'hygiène intime. Cette assistance est apportée par l'ONG Trifonde et son partenaire, le bureau diocésain de développement communautaire de l'église anglicane de Kindu, le BDDC. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de réponse d'urgence en eau hygiène, assainissement et assistance monétaire en faveur des personnes déplacées, retournées et des communautés hôtes affectées par les conflits dans l'est de la RDC. Cette distribution intervient quelques semaines après une assistance en cash accordée à 1309 ménages dans la zone de santé de Punia. Le reportage de Florence Kizalunga.
Au total, 648 filles et femmes en âge de procréer ont bénéficié des kits d'hygiène intime dans la zone de santé de Punia. À travers cette assistance, les organisateurs partenaires attendent contribuer à une meilleure gestion de l'hygiène menstruelle et à la prévention des infections liées au manque de moyens adéquats. Jean-Pierre Kabe Mukunda, chef de projet.
C'est là le cadre de les protéger contre les infections et de les aider à bien gérer leur cycle menstruel.
Du côté des bénéficiaires, cette assistance est accueillie avec satisfaction. Plusieurs femmes reconnaissent que l'achat de ce type de produits représente souvent une charge importante pour leur ménage.
Tire fond, je viens de faire grande chose de nous avoir diminué les coûts d'acheter ça.
Malgré cet appui, les besoins restent importants dans la communauté. Les responsables du projet indiquent que le nombre de bénéficiaires a été limité par les moyens disponibles, alors que de nombreuses autres femmes auraient souhaité recevoir cette assistance. Avant la distribution, les bénéficiaires ont pris part à des séances de sensibilisation consacrées à l'utilisation des kits et à l'importance de l'hygiène menstruelle. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Guerre au Soudan mise sur la table par Washington lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies lundi 24 août. La mesure vise à répondre au risque d'une régionalisation du conflit qui oppose l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide FSR. Elle pourrait toutefois se heurter à l'opposition de la Russie.
L'invité.
Notre invité est le docteur Foreman Mabala, coordonnateur général du Carrefour international d'anesthésie, de réanimation et des urgences, le CIARU. Il revient sur la cinquième édition de ce rendez-vous scientifique organisé récemment à Lubumbashi. Les participants ont notamment échangé sur plusieurs défis liés à la santé publique, notamment la gestion des urgences médicales, l'épidémie d'Ebola ainsi que les déficits des spécialistes en médecine d'urgence en République démocratique du Congo. Quels enseignements tirer de ces assises? Quelles perspectives pour améliorer la médecine d'urgence en RDC? Le docteur Foreman Mabala répond aux questions de Paulin Munanga. Docteur Foreman Mabala, bonjour.
Bonjour, Paulin Munanga.
La cinquième édition du CIARU s'est appesantie sur la prise en charge innovante et résiliente face à la résurgence d'Ebola. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Cela voudrait juste dire que Ebola, aujourd'hui, est un sujet d'actualité. Est un sujet où c'est une épidémie, où les différents épisodes se sont passés ici en République démocratique du Congo. Nous ne devrions pas passer sous silence cette situation. Nous devrions sensibiliser les nôtres. Nous devrions faire parler nos professionnels et nos personnels soignants afin que eux qui sont dans la première ligne de front puissent être informés des tenants et des aboutissants de cette maladie. Nous devrions montrer à l'opinion internationale que nous n'attendons pas que eux viennent nous donner des séminaires, des workshops et autres, mais nous-mêmes, nous prenons en charge ce qui est de l'information, de la formation et surtout de l'éducation de la masse populaire.
Et il y a eu aussi la minute d'or au cœur des urgences médico-chirurgicales. Quelle est son importance, donc l'importance de cette minute d'or?
Le CIARU d'abord, c'est le Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences. C'est-à-dire, quand il y a un accident, par exemple, de voie publique, qu'est-ce que le commun des mortels doit faire? Parce que très souvent, ici chez nous, nous n'avons pas des services appropriés, rapprochés au lieu des accidents. Les commettants mortels doivent savoir que quand il y a un accident de voie publique, quand il y a quelqu'un qui pique une crise, chaque minute compte. À chaque minute qui passe, vous perdez 10% des chances de récupérer votre patient ou votre personne qui est en détresse devant vous. Alors d'où il a fallu montrer à la communauté, il a fallu montrer aux professionnels de santé, aux personnels soignants, que chaque minute compte. Donc quand il y a une situation de crise, quand il y a une situation de détresse, chaque minute doit compter et c'est comme ça qu'on appelle minute d'or. Nous devons faire de notre mieux pour que en préhospitalier et en post-hospitalier, ces minutes-là soient comptées pour le bien-être de nos membres de la communauté.
Et au cours du
carrefour international du CIARO, il y a eu des intervenants qui ont soulevé la question du manque des urgentistes en RDC. Qu'est-ce qui explique cette carence et comment y remédier?
La carence est due qu'il n'y a pas une filière propre en République démocratique du Congo qui forme les urgentistes. Alors, nous sommes en train de travailler progressivement au niveau des différentes facultés, parce que ici en République démocratique, on forme des anesthésistes réanimateurs, comme c'est le cas avec moi. Donc, je suis anesthésiste réanimateur, mais à l'extérieur, on a suivi des cours et entré aux urgences. Alors, il est vraiment impérieux pour le moment que l'on intègre cette filière dans la formation, dans les cursus, pour que nous puissions avoir des urgentistes au vrai sens du mot. Donc, former des gens qui sont des urgentistes, nous l'avons commencé par une formation sur l'État, mais nous voulons que ça soit formalisé. Les facultés de médecine de la République démocratique du Congo, à part le biomédical, à part le bucco-dentaire ou la médecine physique, puissent avoir aussi la médecine des urgences.
Il y a eu aussi des ateliers pratiques qui ont été organisés avec les participants à cette cinquième édition du CIARO à l'hôpital général de référence Jazo Sendoué. En quoi ont consisté ces pratiques?
Les pratiques ont consisté à allier la théorie à la pratique. Parce que très souvent, même quand nous partons dans des conférences, c'est juste la théorie qui prime. Chacun vient, présente les résultats de ses recherches et autres, tout ça. Mais ici, la différence avec les CIARU, c'est des exercices pratiques. Il faut montrer aux gens, quand vous dites que non, il faut opérer une grande masse. Il faut montrer aux gens, quand on dit qu'il faut opérer des cas d'hydrocéphalie, comment les faire. C'est comme ça que nous bouquons des cas. Nous devons changer cette façon de faire à la cinquième édition. À la cinquième édition, nous nous sommes dit, comme nous avons des amis qui viennent d'ailleurs, surtout de l'intérieur, il faut qu'ils voient quelle est la vraie anesthésie, quelle est la vraie chirurgie. Jadis, tout le monde croyait qu'il y a certains cas qui nécessitaient mordicus d'être transférés à l'extérieur. Nous voulons leur montrer que quand nous nous unissons, les anesthésistes de Kinshasa, de Goma, de Kisangani, les chirurgiens de Lubumbashi, de Paris, de partout, nous pouvons facilement faire en sorte que nous puissions opérer des cas. C'est comme ça qu'on l'a fait avec ces ateliers où nous avons pris des cas très délicats et ces cas ont été soigneusement faits par des équipes mixtes venues de partout et nous nous sommes associés avec le plateau technique amélioré au sein de l'hôpital Sendoué. Nous avons sauvé des vies.
Docteur Foreman Mabala, je vous remercie.
Merci pour le moment.
C'était notre invité, le docteur Foreman Mabala, coordonnateur général du Carrefour international d'anesthésie, de réanimation et des urgences, le CIARU. Il s'entretenait avec Paulin Munanga. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée qui a connu la coordination et la supervision éditoriale d'Alain Irungu-Mushinji et la mise en onde était assurée des mains des maîtres par Jean-Claude Nsala Mwanamakengonsoalou. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.